La radio est un art aveugle.
Yeah, it's quite cool.
Et ensuite,
au début, c'était des déformations, c'était des coupures.
Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants.
Bonjour, bienvenue à bord des interviews d'Eric Cooper. Aujourd'hui, nous allons passer 15 minutes avec France Drillon. Alors, France Drillon est nutritionniste, elle est experte en alimentation santé. Et elle va répondre à différentes questions, comme par exemple, faut-il mettre du sucre dans son café? Faut-il saupoudrer ses fraises, son bol de fraises bio et du pays avec du sucre? Vous avez compris, on va parler de la nécessité ou pas peut-être de supprimer le sucre de notre alimentation. Si vous avez envie d'aller d'en savoir un petit peu plus, eh bien vous pouvez aller sur le site de France Drillon, francedrillon.com, Drillon, D-R-I-O-N. Et tout de suite, eh bien, on va poser la première des questions, à savoir le sucre, France Drillon, c'est quoi exactement?
Donc le sucre, en fait, le sucre c'est du saccharose, et le saccharose est un mélange de glucose et de fructose. Et le sucre qu'on a le plus chez nous, je parlais plutôt du sucre de tire-lemon par exemple, qui représente vraiment le carré de sucre de 5 à 6 grammes, c'est issu de la betterave sucrière. Donc c'est une betterave qui est utilisée uniquement à nourrir les animaux et à extraire le sucre. Et donc tire-lemon a le monopole. Donc c'est pour ça qu'on a souvent en tête sucre de tire-lemon. Et c'est ce fameux sucre blanc. Hors de ce sucre blanc, on va aussi avoir les cassonades, qui est ce sucre blanc qui va être chauffé, qui va être bruni, caramélisé. Et alors de là, on aura soit du sucre, de la cassonade brune ou de la cassonade blonde. Et ça, c'est toutes les formes de sucre qui sont typiquement locales, je vais dire, de chez nous.
Il y a le sucre de canne aussi, qui est un peu brunâtre comme ça.
Oui, mais là, il n'est pas local par contre.
Ah non, ça c'est vrai.
Oui, et on a aussi le sucre de canne. Donc ça, c'est une autre forme de sucre aussi qui vient donc de la canne à sucre, qui est beaucoup moins local comme je disais. Et là, alors, on a différentes sortes de sucre. On a le sucre de canne complet, le sucre de canne raffiné et le sucre de rapadura qui ressemble un peu plus à des petits morceaux de cailloux avec des goûts, des odeurs qui sont complètement différentes en fonction des origines. Donc voilà. Maintenant, le sucre, par définition, a un index glycémique. L'index glycémique, c'est la fluctuation du taux de sucre dans le sang en fonction de l'aliment consommé. Le sucre a un index glycémique très 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 haut et c'est pour ça que c'est pas vraiment idéal de consommer trop de sucre, parce que le sucre, en faisant fluctuer le taux de sucre dans le sang, justement, favorise la production d'une hormone qui s'appelle l'insuline, qui fait pénétrer le sucre dans les cellules et souvent, malheureusement, dans les cellules graisseuses, qui va ensuite se transformer en cholestérol. Donc souvent, l'excès de cholestérol est lié à la consommation de sucre et de féculents ainsi que de l'alcool, et rarement, ou en tout cas moins lié à la consommation d'aliments gras, sauf évidemment si vous mangez du gras en excès. Et donc, j'ai décidé de me baser sur le constat et des statistiques actuelles qui sont qu'en Belgique et en France, en moyenne, on consomme 35 kg de sucre par personne par an, soit 95 g de sucre par jour. Ça fait plus ou moins 24 morceaux de sucre par jour. C'est quand même colossal, hein, en sachant que je ne pense pas que je fais partie de cette moyenne-là. Et on a l'impression qu'on ne consomme pas beaucoup de sucre, en tout cas peu, mais vous achetez un jambon en grande surface, vous retournez, vous voyez sirop de glucose, fructose. Vous allez dans les trois quarts des produits de grande surface, en fait, il y a du sucre dans tout. Donc déjà là, inconsciemment, on consomme du sucre, plus le sucre de votre pâtisserie, de vos petits gâteaux, de vos petits biscuits, ça fait vite énormément sur une journée. Donc on consomme beaucoup trop de sucre, et en particulier, malheureusement, le sucre blanc, ce fameux sucre raffiné ou qui est dénué de tout intérêt nutritif. Donc, on en a parlé la fois dernière, je m'avais demandé de faire un article sur quelles sont les alternatives au sucre ou comment peut-on trouver du goût sucré différent. Et donc, je suis repartie déjà du miel, parce que le miel, ça, c'est aussi un produit local avec un index glycémique. Donc, je rappelle la fluctuation du taux de sucre dans le sang qui est un peu moins importante. Maintenant, le miel, c'est pratique, c'est de chez nous, on en trouve plus ou moins toute l'année. Maintenant, il y a miel et miel. Choisissez toujours un miel d'apiculteur plutôt que les miels de grande surface, parce que les miels de grande surface sont plus... Enfin, il faut regarder les ingrédients, parce que souvent, c'est du sirop de sucre aromatisé au miel. Donc ça, faites très attention. L'avantage du miel, c'est qu'il est nourrissant, déjà. Il fournit des minéraux, des vitamines, des acides aminés. C'est un mélange de plusieurs sucres, ce qui fait que l'index glycémique sera un tout petit peu moindre. Par contre, en fonction de l'origine du miel, le miel d'acacia, par exemple, on est sur un index glycémique de 35. Un miel de fleur en plein été, on est sur un index glycémique de 80. Donc plus on est haut, plus on fait fluctuer le taux de sucre. Mais l'avantage du miel, c'est qu'il est deux fois plus sucrant que le sucre. Donc automatiquement, on en met deux fois moins pour avoir le même résultat au niveau du goût sucré. Maintenant, le petit souci, par exemple, c'est pour les pâtisseries, ainsi de suite, ça donne vraiment le goût du miel et tout le monde ne l'aime pas. D'où l'intérêt, peut-être, je passe au deuxième, du sirop d'agave. Parce que le sirop d'agave, c'est un peu le même principe que le miel. C'est extrait d'un cactus originaire du Mexique qui s'appelle l'agave bleue. Son goût est très neutre. C'est un sirop un petit peu comme le miel qu'on disait, mais l'index glycémique est très difficilement quantifiable. Il varie entre 55 et 90 en fonction du pourcentage de glucose qu'il contient. Pour les pâtisseries, on compte aussi qu'on peut diviser par deux la quantité de sirop d'agave par rapport à la quantité de sucre présente dans la recette à la base. Ensuite, pour être toujours dans tout ce qui est un peu plus exotique, on a la stevia. La stevia qui est une plante qui vient d'Amérique du Sud, qui était spécifique en fait des Incas. Parce que les Incas, ils prenaient leur cacao avec de la poudre de cacao amer, telle qu'elle est naturellement présente. Et la stevia pour donner ce petit goût cacao, et ça leur faisait des boissons soi-disant aphrodisiaques. La stevia a un pouvoir sucrant qui est 300 fois plus élevé que celui du sucre. Donc c'était la grande révolution après l'aspartame nocif pour la santé, l'acésulfame K cancérigène, c'était l'occasion d'apporter quelque chose d'un peu plus sain, un peu plus naturel. Maintenant, l'avantage, index glycémique nul, calories nul. Le problème, c'est à l'heure actuelle, on est beaucoup trop proche de la sortie. Ça fait jamais que 5 ou 6 ans que c'est sorti. On n'a pas d'informations sur le procédé d'extraction de ce pouvoir sucrant qui s'appelle le glycoside de stéviol, et ni de la synthèse de celui-là, parce que évidemment, soit il y a extraction et ça nécessitera des solvants et des produits probablement très chimiques pour réussir à extraire la substance sucrante. Et puis, il ne faut pas être dupe, au bout d'un certain temps, ça coûte très cher l'extraction, on commence à le synthétiser, et est-ce que le procédé de synthèse est très sain? Je mets un grand point d'interrogation. Peut-être que de tous les édulcorants, la stevia est la moins pire, mais en attendant, si vous pouvez vous en passer, essayez de le faire. Le fructose. Le fructose, c'est le sucre du fruit qu'on retrouve en tout cas dans tous les fruits, dans certains légumes et dans le miel. Son pouvoir sucrant est aussi beaucoup plus intéressant que le sucre blanc. Et pour en trouver, par contre, il faut aller plus dans les magasins bio, les magasins diététiques. C'est un sucre qui est super chouette pour les personnes qui sont diabétiques. Maintenant, faites attention qu'une consommation excessive... Donc on compte au-delà de 50 grammes de sucre, mais je vous rappelle que 50 grammes de sucre, c'est déjà 10 morceaux de sucre par jour. Ça peut provoquer des douleurs, des troubles digestifs, des problèmes de triglycérides aussi. Ça peut provoquer au long terme aussi des problèmes de cholestérol. Maintenant, le fructose, ça reste une alternative de temps en temps au sucre. Et l'avantage, c'est que lui aussi, on en met deux fois moins que le sucre blanc. On a aussi un sirop que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup, parce que je trouve ça délicieux. Ça reste le sirop d'érable. Mais le vrai bon sirop d'érable.
Absolument, avec des crêpes et tout ça.
Oui, voilà, le vrai bon, pas le pseudo sirop d'érable de nouveau de grande surface. On essaye qu'il soit bio parce que c'est pas le label bio qui m'importe dans le sirop d'érable, parce que par définition, les érables, c'est pas possible d'avoir des érables bio et des érables pas bio. Par contre, ce qui fera que la qualité du bio sera meilleure, c'est qu'on est sûr qu'on est sur un 100% sirop d'érable, que si vous prenez du sirop d'érable parfois de grande surface, il est dilué avec d'autres choses et ça fait plus un sirop à l'aquement qu'un vrai sirop d'érable. Donc, le sirop d'érable, par contre, se modifie à la cuisson. C'est pour ça qu'il n'est pas spécialement conseillé de le cuire. C'est plus au niveau du goût. Maintenant, autrement, souvent, on le met après cuisson pour sucrer, comme on parlait justement des crêpes, de crêpes ou des pancakes, les crêpes américaines. Et alors, il est beaucoup plus intéressant, de nouveau, que le sucre blanc. D'un point de vue nutritionnel, parce qu'il est riche en vitamine B, en zinc, en manganèse. Son index glycémique est un petit peu plus faible, pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Parce que les composés de ces sirops-là, c'est principalement du fructose. Et le fructose fait très 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 peu fluctuer le taux de sucre dans le sang. Donc ça, c'est plus intéressant. On a le sirop de riz qu'on trouve dans les magasins spécialisés et dans les magasins chinois. De nouveau, je préfère que ce soit un sirop de riz bio que de magasin asiatique. Pourquoi ? Parce que c'est de la fermentation de riz brun, donc de riz complet. Et je rappelle que le complet, si on a du non bio, il risque d'y avoir beaucoup de traces de pesticides et d'engrais, donc privilégier plutôt un sirop de riz bio. Donc on l'obtient par la fermentation du riz brun. Il est moins sucrant que le sucre de table, donc ça c'est moins intéressant. Il est riche par contre en vitamines et en minéraux. L'avantage c'est que, contrairement aux autres sucres, il fonctionne comme un sucre lent. Donc tous les autres sont des sucres rapides, celui-là fonctionne plus comme un sucre lent, ce qui évite le pic d'insuline, ou en tout cas qui le limite très très fort. Maintenant voilà, pour avoir le même goût sucré, il faut en mettre deux fois plus, donc au niveau calories, c'est pas très intéressant. Maintenant, le sirop de riz dans une cuisine sucrée, salée, aigre, douce, ça peut être une chouette alternative au sucre de table traditionnel. On a la mélasse qui est produite à partir du sucre de canne. Ça fait un sirop un peu brun foncé, un petit peu...
Qui a un goût particulier quand même. Je pense qu'il faut aimer. Hein.
Oui, il faut vraiment aimer.
Un goût de réglisse.
Il faut vraiment aimer. Ouais. Tout le monde n'aime pas. Moi, j'ai jamais vraiment eu... Je l'ai eu l'occasion de goûter qu'une seule fois. Ça m'a pas marqué. Ça n'a pas été une grande histoire d'amitié, mais c'est pas grave, je ne resterai pas là-dessus, je regoûterai un autre jour, mais j'avoue que je ne sauterai pas sur l'idée de me dire « Ouais, génial, j'allais me chercher de la mélasse ». Maintenant, c'est très riche en vitamine B, ce qui est génial, en minéraux, en oligo-éléments comme le zinc et aussi en fer. Son index glycémique, c'est le même que le sucre, donc voilà, il n'a pas vraiment, sauf dans certaines cultures ou dans certaines préparations où on en parle, je ne suis pas convaincue de l'utilité de ce genre de sucre, en tout cas chez soi. On a aussi dans les produits un petit peu exotiques, le sucre de coco, où là on en parle, c'est la grande mode aussi, qui est issu de la sève de la fleur de cocotier. Il possède un index glycémique qui est très bas, donc 35. L'index glycémique du sucre, c'est au-delà de 70. Sa texture est proche de la cassonade. Donc ça, c'est génial aussi pour les crêpes. Et c'est un légèrement caramélisé au niveau du goût. Donc ça, c'est franchement
pas
mal. Ça n'a
pas un goût de coco trop prononcé ?
Pas du tout, ça goûte pas du tout la coco. Maintenant, je veux faire une grande aparté sur le sucre de coco. Ça, c'est mon aspect un peu écolo-bio qui ressort. Le sucre de coco, je l'ai dit, c'est extrait de la sève de fleurs de cocotier. Et donc, d'office, on ne sait pas avoir des cocotiers bio et des cocotiers non bio. Donc l'avantage, c'est que tous les sucres de coco, à l'heure actuelle, sont bio. Donc vous pouvez aller chez Action, vous trouverez du sucre de coco bio, vous allez chez Lidl, chez Aldi, vous en trouverez aussi. Maintenant, la seule chose dont je veux vraiment que vous fassiez attention, c'est qu'on a un gros problème de déforestation avec toutes les palmeraies pour l'huile de palme. Si tout le monde vient consommer du sucre de coco, on va avoir le même problème avec des cocotiers où on va déforester, on va déséquilibrer la biodiversité pour faire pousser des cocotiers et on met en danger, parce qu'il y a plein de vidéos qui tournent sur YouTube qui expliquent comment on récolte la sève de fleurs de coco. Ce sont des gens qui prennent des risques tous les jours parce qu'ils montent sans harnais, sans rien dans les cocotiers, ils coupent ils vont chercher ce qu'il faut dans les fleurs et ainsi de suite. C'est un métier qui est dangereux, certes. On peut ou pas être sensibilisé à ce niveau-là, mais vraiment, si moi je regarde à ce que ce soit quand j'achète du sucre de fleurs de coco, qu'il y ait des labels d'écologie derrière qui garantissent qu'on n'a pas de déforestation, ou que si on a une déforestation qui s'envisage, à côté, ils sont dans une autre dynamique de reforestation, de biodiversité, mais au moins qu'il y ait quelque chose derrière. Parce que si vous achetez du sucre de coco, comme je disais, dans des magasins bas de gamme, certes, vous l'aurez du bio et vous serez peut-être très content d'avoir fait une bonne affaire. Et c'est clair qu'on n'aura pas de cocotiers chez nous, mais dites-vous que vous allez être peut-être responsable de la famine dans le reste du monde juste parce qu'on a créé des déséquilibres au niveau de la diversité et avec toutes les conséquences que ça raconte. Donc, s'il vous plaît, quand vous achetez du sucre de coco, faites attention à vraiment avoir ces labels d'écologie derrière qui sont essentiels, en tout cas pour moi, parce que ce sont des valeurs qui sont importantes pour moi. Si ça n'est pas pour vous, faites quand même un petit peu cet effort-là, s'il vous plaît. Et alors, le dernier qui est que j'ai horreur. Horreur de chez horreur, dans les goûts sucrés, ça reste l'aspartame. Fallait quand même que j'en parle, parce que oui, c'est une alternative au sucre. Mais non, c'est tellement mal ça que vous allez l'oublier. Donc l'aspartame, pour ceux qui ne le connaissent pas, son nom chimique, c'est le E951. L'aspartame, c'est un édulcorant au pouvoir sucrant 200 fois supérieur à celui du sucre, donc toujours très intéressant. Sorti début des années 80, après durant la présidence de Ronald Reagan, où en fait dans les années 70, il souhaite déjà sortir l'aspartame, mais c'est refusé parce qu'il y a trop d'études qui montrent les dangers de l'aspartame, en tout cas sur les animaux. Et puis, rien à faire. On a des politiques qui ont des bras longs. On décide de faire comme PDG de la société qui produisait l'aspartame avant le bras droit de Ronald Reagan, qui, quand Ronald Reagan passe au pouvoir en 1980 ou 81, je pense, se retrouve au Sénat et réussit à faire passer comme l'aspartame, produit pouvant être consommé d'abord dans les produits secs et puis dans les boissons en 83 ou en 84. Et donc, quand il est passé dans les boissons dans ces années-là, il a été autorisé en Europe avec des quantités qui n'étaient pas les mêmes, par contre. Donc déjà là, il y avait des petits hics. Et en fait, depuis les années 80, toutes les études indépendantes qui sortent sur l'aspartame montrent une nocivité qui est quand même colossale. On parle de responsabilité au niveau du cancer, d'Alzheimer, de Parkinson, parce que c'est un neurotoxique, c'est-à-dire qu'il détruit les neurones. Et il faut savoir que les neurones, on en a un quota X et qu'au fur et à mesure du temps, ils diminuent. Alors plus vous prenez des neurotoxiques, plus ils diminuent vite. C'est responsable de la sclérose en plaques aussi, c'est responsable de certaines maladies orphelines. Et donc, c'est pas rien, on parle quand même de pathologies lourdes et graves. Alors certes, c'est peut-être pas le seul élément, c'est un ensemble d'éléments, mais si vous pouvez l'éviter, vous l'évitez. Et l'aspartame, malheureusement, c'est le produit phare de tous les produits light, avec la C-sulfame K qui est encore pire. Donc là, je parle de tous vos soda light qu'on trouve en grande surface. Je parle de votre Canderel, de toute autre alternative à votre poudre blanche super légère. Ben voilà, ça c'est à bannir, mais à bannir de votre alimentation parce que ce n'est pas un aliment. C'est une substance chimique que vous ingérez en pensant bien faire et en vous déculpabilisant. Prenez, même si j'ai horreur, vous savez bien, de ces boissons noires pétillantes, qu'elles soient light ou pas light, ça c'est clair, j'en ai horreur. Mais je préfère encore un soda normal où on se dit « j'en bois pas deux parce que c'est du vrai sucre » que de se dire qu'on va boire avec des sodas light toute la soirée et s'intoxiquer à petit feu. C'est comme si on avait une petite horloge qu'on avait au-dessus de sa tête qui disait « Aujourd'hui, tu meurs, tu meurs pas, tu meurs, tu meurs pas, tu meurs, tu meurs pas. » Non, on ne peut pas avoir toujours cette épée de Damoclès. La seule chose dont on sait, c'est qu'on mourra, certes, mais moi, je préfère choisir une mort un petit peu plus sympa que mourir d'un cancer. J'ai eu la chance de pouvoir faire des stages en oncologie et je vous assure que les personnes en fin de vie, il y a des manières, je pense, plus décente, même si ils font un travail remarquable dans les services d'oncologie, y a des morts qui sont plus agréables que d'autres.
Merci France Drillon de nous avoir éclairé sur le sujet. Vous savez maintenant si vous devez ou pas, pour votre santé, supprimer le sucre de votre alimentation. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, eh bien France Drillon a un site, www.francedrillon.com, Drillon, D-R-I-O-N, francedrillon.com. Et avant de libérer vos petites oreilles, j'ai trois petites choses à vous demander, comme d'habitude. Si vous avez aimé ce podcast, cliquez sur « J'aime ». Abonnez-vous aussi pour ne pas manquer la prochaine interview d'Eric Cooper et puis laissez un commentaire sympa. Je vous dis merci et puis à très bientôt.
Ça y est, c'est fini.